13h20 sur France Inter. France Inter,
la différence.
Vous écoutez France Inter, il est 15h passé de 4 minutes tout de suite. C'est Daniel Mermet pour La Bassie, j'y suis.
Grondé contre Daniel quand même. Hein. Il est en train de parler de la Chine. Enfin, quand même, ces gens-là, ils sont super. Quand ils passent leur temps à travailler alors que nous, on glande, on fait rien en France. On est vraiment des glandeurs. Ça va pas. Regarde, moi, je pense qu'il faudrait faire comme ça. Ouais. Il faudrait que tout le monde travaille jusqu'à 68 ans en France. Après, si on est encore un peu bien, on le met en maison de repos. Et à 71 ans, l'euthanasie pour tous ceux qui dépassent. Comme ça, au moins, la sécurité sociale aurait un fric fou. On pourrait redresser les capitalistes, ils pourraient relancer leur économie. Formidable. Moi, je pense que c'est la seule solution. Allez, à bientôt, camarades. Ciao.
Je voudrais m'adresser à tous les auditeurs pour faire part de ma révolte. Une petite fille de 11 ans se trouve éloignée de la présence de son papa, car celui-ci a été placé en centre de rétention de Lyon-Saint-Aulas jeudi 15 avril. Sans réaction de notre part, il sera dans quelques jours expulsé de France et la vie de sa famille sera brisée. Si vous partagez ma colère, vous pouvez réagir en allant sur le site internet de ROSF 38, rubrique « Pétition en cours ». J'espère que vous serez nombreux à vous mobiliser autour de ce message.
Jeudi 22 avril, repère des amis du Grésivaudan entre Chambéry et Grenoble. Le thème, Internet. Depuis la mobilisation jubilatoire pour le non au référendum de 2005 à nos pratiques actuelles. Internautes, attention, il n'y aura pas de chat ni de vidéoconférence. Il faudra venir en personne à partir de 19h30 à Berlin, à la brasserie du Chardon. Bière bio sur place et casse-croûte tirée du sac.
Cela fait maintenant presque un an que nous sommes trois à être en lutte contre la direction du Leclerc Méridien près de Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. La direction du magasin a invoqué un motif économique pour nous licencier, nous qui étions payés au SMIC alors que les bénéfices de l'entreprise se chiffrent en millions d'euros. Car en réalité, nous avons cessé de nous battre pour le faire savoir. Nous avons été licenciés pour avoir activement participé au mouvement de grève du 19 mars 2009. Première grève depuis 30 ans, dans une entreprise où aucun syndicat n'était implanté. 3 heures de grève, 3 licenciements. Lorsque nous avons rejoint la manifestation nationale dans les rues de Tarbes ce jour-là, avec une soixantaine de nos collègues, nous étions sûrs de notre droit, sûrs d'être protégés par la Constitution française. Et pourtant, nous avons subi ces licenciements 2 mois plus tard, brutalement infligés par une direction qui, elle, fait peu de cas du droit de ses salariés, sûre de son pouvoir, au mépris de la loi. Ces licenciements ont eu un impact considérable sur nos vies et sur celles de notre entourage. Pendant ce temps, les patrons du Leclerc, eux, continuent de faire des affaires, continuent d'engranger des bénéfices. Pendant un an, avec notre collectif de soutien, nous avons sensibilisé la population locale, la presse, les élus, afin de faire connaître notre affaire devenue emblématique ici. Nous sommes passés en audience au prud'homme de Tarbes mardi dernier. Nous sommes reconnaissants aux 250 personnes qui sont venues nous manifester leur soutien et exprimer leur révolte contre cette atteinte au droit de grève lors du rassemblement précédant notre audience. Ils ont prouvé par leur présence qu'en 2010, il est encore possible de se mobiliser et d'être solidaire dans une lutte qui s'inscrit dans la durée. Cette solidarité pleine de chaleur, les patrons du Leclerc ne la connaîtront jamais. C'est pour nous déjà une victoire. Aujourd'hui, après un an de lutte, nous sommes fatigués mais avant tout fiers d'avoir relevé la tête et impatients que justice nous soit rendue. Le délibéré de notre audience sera rendu le 15 juin. On vous tient au courant. À la prochaine.
Ouais, t'as bien raison, Daniel. Il vaut mieux rentrer du Japon à vélo. C'est totalement écolo, d'abord, d'une part, beaucoup plus que l'avion. Et d'autre part, je suis sûr que sur cette longue route, tu pourras nous faire des centaines et des centaines de merveilleux reportages. Voilà. Donc, bon courage pour ton périple à vélo. Et j'espère qu'on ne sera pas obligé de réécouter des rediffusions pendant 2 ans et que tu pourras envoyer les bandes du fin fond de la Sibérie jusqu'à la maison de la radio, malgré l'absence d'avion. Voilà, ciao, ciao.
En vélo, effectivement, mais on ne sait plus du tout où on est, ni comment on s'appelle. On est quelque part entre Tokyo, Osaka, Doha, au Qatar, Munich et Paris. On est quelque part entre tout ça. Alors, les aiguilles de nos montres tournent dans tous les sens. On ne sait plus s'il est midi, s'il est minuit, mais on est en bonne voie pour retrouver bientôt Paris. Déçu, il va être notre ami Philippe Val, qui a fait un rêve. Toutes les nuits, il fait un rêve merveilleux. Le nuage restait sur le monde, et là-bas, si j'y suis resté à tout jamais, au Japon. Eh bien, voilà, on est de retour. C'est long, c'est difficile, c'est périlleux, mais nous revenons, ainsi que beaucoup de réfugiés du volcan. Pendant ce temps-là, là-bas, si j'y suis, célèbre un petit moment de réjouissance, si on peut dire, en tous les cas, d'un moment de justice. En 1995, nous avions fait une série de reportages en Argentine. C'était le temps de Menem. Vous vous souvenez de ce Menem qui était un précurseur de Berlusconi ou de Sarkozy. Et à l'époque, on disait « Ah non, il y a un point final et il faut savoir tourner la page et ne plus revenir sur les heures sombres de l'Argentine, etc. etc. » Mais pendant ce temps, les maires de la place de Mai, celles qu'on appelle les folles de la place de Mai, continuaient de tourner autour de la place de Mai, et ce depuis 1977. Eh bien, tous ces efforts, les efforts de ces femmes, mais les efforts de tous, ont fini par aboutir, et mardi dernier, le dernier dictateur argentin qui a été au pouvoir entre 82 et 83, Reynaldo Bignone, a été condamné à 25 ans de prison. Alors on dira, oui, oh, c'est revenir en arrière, les vraies luttes, c'est aujourd'hui. Ça, c'est vrai, mais quand même, il y a des luttes qui aboutissent et on ne perd pas toujours. Voilà notre thème du jour. Argentine, folle de mai ou mère de mai, 1995. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, salut à tous les AMG. Ce soir au Café Repère de Brignoles, il va y avoir de l'artiche, du flouze, du pognon, de l'oseille, du blé, de la thune, des briques et des ronds. En un mot, de l'argent. Thème du débat de ce soir et titre du film d'Isaac Hésitant qui le précédera à partir de 20h au Café de l'Oasis. Venez nombreux et nombreuses, ajoutez votre grain de sel à cette soirée.
La grande classe, la très très grande classe. Alors là, lundi matin, j'ai entendu Stéphane Guillon, ou mardi matin, je ne sais plus, parler des avions qui ne pouvaient plus voler, et que personne n'avait parlé effectivement des réfugiés qu'on essaie d'expulser, les baissonnables, voilà. Donc, lui, il a soulevé ce point. Bah, c'est très... Et voilà, sans aucune méchanceté, tout simplement, voilà, ça fait rire, mais ça fait aussi réfléchir. La grande classe. Par contre, ce qui est moins classe, c'est la rumeur comme quoi il serait peut-être pas reconduit chez France Inter. Moi, deux choses l'une. Soit Guillon irait sur France Inter, soit j'écoute plus France Inter. Et j'espère que je serai pas le seul. Allez, vive Guillon, et bonne soirée, bonne journée, à plus tard. Salut.
El tango es fácil o imposible?
No sé lo que vamos a hacer, no sé.
Je ne sais pas ce qu'on va faire.
Il y a el pobre pobre y el rico rico.
Ici, il y a le pauvre très pauvre et le riche très riche.
Les
gens vont sortir voler, vont voler pour manger, vont casser les vitres pour manger.
Va ser una revolución.
Ce sera la révolution.
Digo, porque no tengo trabajo, ando muerto de hambre, por eso.
Non, je le dis parce que je meurs de faim.
Et j'étais brutalement torturée et j'étais enceinte de moins de 3 mois.
Vous aviez quel âge ?
Et 16 ans. Et ils ont trouvé plus de 100 marques dans mon corps de la torture.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Zoé Varier. Là-bas, si j'y suis, en Argentine.
Flight number 2, arriving from New York.
En fait, ça fait combien d'années que vous faites le tour de cette place?
77.
Depuis 1977. Plusieurs fois, ils nous ont mis en prison. Vous avez fait de la prison?
Iban todos a la comisaría donde estaban y se quedaban enfrente hasta que las largaban. Al estar unidas pudimos hacerlo.
Et comme on était très unis entre nous, chaque fois qu'on prenait une mère et l'emmenait en prison, on allait tous en face du commissariat et on attendait jusqu'à qu'il la relâche. Et c'est grâce à cette unité qu'on a pu continuer.
Quand un militaire accomplit son devoir de répression, le Christ est en lui, en bonté et en vérité. Voilà l'été austral, dans les jacarandas en fleurs. La nuit est tiède et magique, la foule est vivante. Bienvenue à Buenos Aires, un bon, gros et chaud et saignant kilo de bœuf. Aussi beau, aussi bon qu'une femme dans votre assiette argentine. Mais soudain, gâché le plaisir, un cri d'enfant qu'on torture, attaché, bien serré la tête qu'on tape régulièrement contre l'angle du lavabo, puis le cri à nouveau, comme celui d'un petit porc. Son sang sur le carrelage, on lui fait lécher, bruit des chaînes aux pieds, tandis qu'un autre militaire, méthodique, calme, prépare les instruments pour la torture à l'électricité. Oh, éprouvante ces tortures, bien sûr, pour ces braves militaires qui accomplissent ce qui doit être fait pour sauver l'Occident chrétien. Pour les soulager, ils ont l'assistance des prêtres qui sont là pour leur apporter la confession, la bonne parole et le soutien moral. En Argentine, l'Église est une Église d'État. Le 29 décembre 1975, Monseigneur Adolfo Tortolo, lors d'un déjeuner à l'hôtel Plaza de Buenos Aires avec les représentants de la Chambre de commerce argentine, explique ce que va être cet exaltant processus de purification. Le terrorisme d'État commence. Plus tard, à Buenos Aires, on entend toujours le cri des torturés. Gâchez votre bonne viande. Vous venez d'apprendre que juste à côté de ce resto, derrière ce mur, c'était un centre de torture de 76 à 83. Il y en avait ainsi des dizaines à Buenos Aires, autant des militaires, autant de la complicité obligée de presque tout un peuple avec ses bourreaux. Un peuple condamné au silence, à la lâcheté, aux compromissions, à la délation. Au temps où l'Église catholique soutenait et inspirait les terroristes, avec l'appui des États-Unis, comme dans tout le continent sud-américain, c'était la fameuse doctrine de purification nationale, qui fut, sous le prétexte d'une lutte anticommuniste, d'une lutte contre les subversifs, tout un appareil de répression planifié, avec le concours d'anciens nazis, d'officiers français, anciens de l'OAS, comme conseillers. Terrorisme d'État, dictature militaire, répressif, puritain, mais d'abord au service des grands propriétaires, des grandes familles de l'oligarchie bovine de l'Argentine, qui se sont rarement aussi bien enrichis que durant cette période par l'instauration d'une politique ultralibérale, ouvrant le pays aux investisseurs étrangers. Impossible oubli. 30 000 fantômes harcèlent l'Argentine. 30 000 disparus, ni morts, ni vivants hantent ce pays, invisibles zombies de jour, de nuit et de brouillard. Ils sont là, les disparus, boursouflés, leurs grilles plantées sur l'épaule du monde. Comment s'en débarrasser? Impossible. Réconciliation. Comment les tuer? Ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas vivants. Ils réclament une sépulture. Ils réclament un repos. Ils réclament que leur nom soit écrit, que leur nom soit dit, alors seulement commencera la fête du deuil. Ces derniers temps, ils sont revenus à la surface de l'Argentine. Pourquoi? Entre autres par la déclaration d'anciens militaires tortionnaires qui ont fait des aveux pour la première fois. Aussi, la grande raison, peut-être la seule raison, la vraie raison,
c'est que, malgré tout, elle tourne. Depuis le 18 avril 1977, les mères des disparus, les sœurs des disparus, les grands-mères des disparus, tournent autour de la place de Mai. Les folles de la place de Mai, les avait-on baptisées, avec leurs foulards blancs sur la tête, ces foulards qui représentent les couches de leurs enfants. Chaque jeudi, à 15h30, elles tournent dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, comme pour arrêter la machine à oublier, pour arrêter la machine à nier le négationnisme qui se planque derrière la réconciliation. Elles tournent pour la vérité, pour la justice. Elles tournent aussi riches d'une expérience extraordinaire. Ces femmes ne luttent pas seulement pour la vérité, pour la justice et pour l'histoire. Elles sont pleines d'une expérience tout à fait unique. C'est avec elles qu'on va passer cette heure, avec les photos de leurs enfants. Visage souriant devant un arbre de Noël, une jeune fille timide avec sa sœur dans la rue Corrientes, une famille en noir et blanc en vacances avec un petit cheval. Ils sont là, partout, sur le bord d'un tango, dans un verre de vin, sur la terrasse entre amis, sur la bouche pivoine d'une beauté cambrée, dans l'atmosphère légère d'un matin d'oiseau, soudain poignardé.
Y le voy a decir, hoy vino un tipo francés y grabamos y nos recordamos a ustedes. ¿Y vos qué opinás? Y seguramente ella se va a reír, va a estar de acuerdo o no. Siempre estamos discutiendo con ellos.
Si, si vous voulez savoir ce que c'est qu'un disparu, c'est maintenant je vais retourner chez moi et je vais m'asseoir et je vais parler avec ma fille et je vais lui dire aujourd'hui il y a un mec, un français qui est venu et on a parlé de toi, on s'est rappelé et puis elle va rigoler, elle sera d'accord ou elle sera pas d'accord et on continuera à parler avec elle tout le temps, toute la vie et c'est ça un disparu.
Ah, c'est quelqu'un qui n'est pas là et avec qui on parle.
En décembre 1990, en Argentine, le président Carlos Menem a gracié les anciens chefs de la junte militaire qui, de 1979 à 1983, a imposé à l'Argentine un régime de terrorisme d'État. 30 000 personnes, selon les organisations humanitaires, selon Amnesty International, ont disparu, sont portées disparues. C'est-à-dire que c'est des gens qu'il faut bien comprendre une chose, c'est qu'ils sont ni morts, ni vivants. Il n'y a pas de preuve de leur disparition, mais depuis ces années terribles, surtout au début de la dictature, 75, 76, 77, ils ont disparu. La démocratie, entre guillemets, est venue en Argentine en 1983.
Le président Alfonsine a été élu en 1985. Une commission d'enquête présidée par Ernesto Sabato, le grand écrivain argentin, a dressé le bilan officiel et prudent, et qui semble très prudent aujourd'hui, de ce qui fut le nuit et brouillard de l'Argentine. Des lois d'amnistie ont été depuis décidées, votées. Il faut rappeler que la justice en Argentine est une justice d'État. Il n'y a pas de séparation entre la justice et l'État. C'est donc la justice que veut bien faire l'État qui prévaut. Des lois ont été adoptées d'amnistie. L'une au nom du droit d'obéissance, c'est-à-dire que les militaires impliqués n'auraient pas de responsabilité à cause de l'obéissance, qui est la règle dans l'armée. D'autres lois d'amnistie, il y a l'amnistie aussi du point final, et puis cette troisième disposition qui a été prise donc par le président Menem, de gracier les responsables, les hauts responsables de la junte militaire qui avaient été chargés de lourdes peines en 1985. On voit comment l'injustice persiste, comment l'impunité est la règle dans ce pays comme dans d'autres, et comment il est tout à fait désespéré d'espérer la justice aujourd'hui dans ce pays. Et pourtant, dans ce pays réputé pour sa qualité à oublier, des personnes se battent et persistent. Très peu nombreux, mais, qui continuent. Et essentiellement, je disais à l'instant, ces femmes qui, depuis le 18 avril 77, chaque semaine, tournent autour de la place de Mai, face à la Maison Rose, la Casa Rosada, la maison du gouvernement. Alors, on va les retrouver aujourd'hui dans leur local, et on va d'abord rencontrer la maman de Gustavo, évidemment qui parle de son fils. Et ce fils est un modèle, si on peut dire, de ces 30 000 disparus.
Nous savions que notre fils était militant de la jeunesse péroniste. Était un jeune sensible. Il allait aider dans les quartiers les plus humbles. Il voulait un changement.
El sistema este de oprobio y de esclavitud que tenemos no iba con sus sentimientos para nada.
Le système d'opprobre et d'esclavage que nous continuons à avoir n'allait du tout avec sa personnalité et ses sentiments.
Soñaba con un país donde todo el pueblo disfrutara de una justicia social.
Il rêvait d'un pays où tout le peuple pouvait jouir d'une justice sociale.
Teníamos miedo porque sabíamos que se llevaban a la gente, que ya había presos políticos. Mi marido, que era el que estaba más asustado en ese momento, le pedía que se fueran, él y su mujer, que se fueran del país para que no corrieran riesgo.
Mon mari, qui craignait le plus, demandait à mon fils de partir du pays à cette époque-là parce que nous avons déjà qu'il y avait des prisonniers politiques et qu'il y avait des gens qui disparaissaient.
Y bueno, él tenía más miedo que yo en ese momento.
Il craignait plus que moi.
Yo pensaba, bueno, no, que no iba a pasar. Yo no, tampoco. ¿Qué era el horror este tan grande de ninguna manera?
Je n'ai jamais pensé que...
Que se iba a vivir el infierno en nuestro país.
L'enfer dans notre pays, je n'ai jamais pensé.
Dans la ville de Buenos Aires, il y avait 10 millions d'habitants à l'époque. On savait ce qui se passait.
La gente sabía lo que pasaba en Buenos Aires.
La gente, los militares actuaron mucho... en la clandestinidad, aun cuando era un golpe de Estado y había un Estado militar.
Même si les militaires étaient au pouvoir, ils ont agi vraiment dans la clandestinité.
La propaganda de ellos era decirle a la gente que por algo será, que si se los llevaron, que hacían ver que todo lo que estaba pasando era para limpiar el país de los revoltosos. Yo le digo revoltosos el término, ellos decían de los subversivos.
Mm-hmm. ¿No? À partir de la propagande, ils ont fait croire aux gens que les gens qui étaient kidnappés était mêlé dans quelque chose.
Était des subversifs.
Était des subversifs. Et alors, il y avait un dicton à l'époque où tout le monde disait peut-être c'est parce qu'il est mêlé dans quelque chose.
Y era tanto el horror que implantaron que la gente, aunque sabía mucha gente lo que estaba pasando, que se estaba llevando a cabo una gran represión, tenía tanto terror que se metía en su casa, cerraba bien y tenía miedo de involucrarse, aún saludando a la familia que le habían llevado su hijo.
La terreur était si forte que même des gens qui connaissaient bien des familles dont les enfants avaient été kidnappés et s'est renfermé et ne saluait pas les parents du kidnappé par crainte de subir des conséquences.
Votre fils a disparu comment, selon vous?
Estaba casado.
Il était marié.
Y tenía en ese momento un hijo de 3 años.
Et à cette époque, il avait un fils de 3 ans.
Vivía con nosotros en nuestra propia casa.
Il vivait avec sa famille, mais chez nous, dans notre propre maison.
Se fue para su trabajo.
Il s'est allé au travail.
Fue a la estación a tomar el tren.
Il est allé à la gare prendre son train.
Y no volvió.
Il n'est jamais revenu.
Mais aujourd'hui, est-ce que vous acceptez que votre fils soit mort?
Mira, nosotras después de tantos años podemos pensar que ya no están con vida.
Après toutes ces années, nous pouvons parfaitement bien penser qu'ils ne sont plus vivants.
Mais il reste un petit espoir.
Non, esperanza no. Lo que pasa es que una madre mientras no cierra porque este círculo de horror nos cierra porque no sabemos cuándo, cómo, dónde y quién.
Il ne reste plus d'espoir, mais en même temps, en tant que mère, il faut savoir tout. Et on peut pas savoir tout et jusqu'à le moment où on ne saura pas tout, le cercle n'est pas renfermé.
Quel cercle vous parlez?
Quel círculo dice usted?
El círculo de, por un lado, el círculo de la esperanza. Y el círculo de la realidad. La realidad es que no sabemos qué ha pasado con nuestros hijos, cuál ha sido su destino.
Y el cercle dont je parle, c'est le cercle de l'espoir, de la réalité. Y nous ne connaissons pas du tout la réalité de nos fils.
No, todas las madres en algún rincón guardan la esperanza, o quisiéramos.
Dans quelques coins, nous essayons de garder un peu d'espoir. Vraiment, voudrions ça, mais.
Pero es imposible imaginarse eso, ¿no? Es como que uno entrara en una locura de querer imaginar lo imposible.
On peut pas rentrer dans la folie de vouloir imaginer l'impossible.
Les assassins de vos enfants, vous les connaissez. Tout le monde se connaît à Buenos Aires. Hein? C'est une très grande ville, mais c'est un petit village. C'est plein de petits villages. Donc, nécessairement, vous les connaissez. Vous les voyez. Dans les rues, vous les reconnaissez. Depuis la fin du régime de terreur, vous savez qui est qui et qui a fait quoi.
Bueno, hace pocos días, por 2 veces consecutivas, fue agredido el capitán Astiz. Uno de los asesinos de la Escuela Mecánica de la Armada, y en dos ocasiones jóvenes le han pegado uno un cachetazo y el otro le bajó los dientes, que se lo sacó los dientes postizos para la miércoles.
Tenez les cas, par exemple, du capitaine Astiz. Le capitaine Astiz, qui a été un tortionnaire à l'école de mécanique de la marine et qui était aussi le responsable de la disparition des nonnes françaises, a été.
Deux bonnes sœurs françaises qui ont été torturées et assassinées, ce Astiz emporte la responsabilité. Oui. Il est toujours en liberté.
Il est toujours en liberté, mais il n'y a pas longtemps. C'est passé 2 choses qui sont intéressantes. Dans la rue, une fois à Bariloche et une autre fois à Buenos Aires, des jeunes gens ont attaqué Astiz. Une fois, il a été giflé. L'autre fois, ils l'ont fait sauter les dents et d'un coup de poing.
Dans ce climat d'impunité, ce geste semble de la justice pour nos amis argentins. Ce capitaine Astiz
en fait, dont le travail à l'époque consistait à infiltrer les milieux, entre guillemets, subversifs, est responsable, entre autres, de la déportation à l'école spéciale de mécanique de l'armée, qui est un de sinistre mémoire, de deux religieuses françaises, Léonie Duquet et Alice Daumont, qui en 1977 étaient venues à Buenos Aires, en Argentine, pour soutenir la lutte des maires de la place de Mai. Et c'est lui qui les a fait arrêter et qui les a fait déporter dans le sinistre endroit de cet endroit particulièrement atroce qui s'appelait le Capucha. Ça veut dire qu'elles ont été bâillonnées, elles ont été torturées, elles ont été violées, elles ont été assassinées. En 1987, la justice française a condamné le capitaine Astis à la réclusion criminelle. Ce type donc est condamné, mais il vit en Argentine. La justice française exige un devoir d'ingérence pour que la mémoire de ces deux religieux, Léonie Duquet et Alice Daumont, que justice soit faite au sujet de ces crimes. Et on est un peu surpris quand même que deux femmes comme celle-là ne soient pas plus connues dans notre pays et, j'oserais dire, pas davantage aimées.
Cada grupo torturaba, mataba o liberaba.
Et chaque groupe suivit une méthode différente. Il y avait quelques-uns qui torturaient et tuaient, il y a d'autres qui torturaient et libéraient.
Entonces nosotros creíamos que en algún momento pensábamos que había gente, mucha gente con vida y que en algún momento los iban a liberar. Llegó la primera Navidad y todas esperábamos.
Nous avons cru à l'époque que à partir de ces groupes qui a été libéré, que d'autres groupes suivraient les mêmes. Et nous avons beaucoup d'espoir, et je me souviens, au premier Noël, après cette première libération.
Quand se acercó le 24 de décembre, le compré un vaquero.
Et pour le 24 de décembre, j'ai acheté à mon fils un jean.
Le compré unos mocasines.
J'ai acheté des chaussures.
Y una camisa.
Et une chemise.
Y habíamos cenado siempre pensando que en algún momento iban a tocar el timbre, que iba a ser Gustavo.
Et nous avons dîné en pensant que à un moment donné la porte allait sonner et ça serait Gustavo.
Cuando quedó toda la casa en silencio, se fueron todos a dormir. Me puse un sillón mirando para la puerta. Y me quedé toda la noche mirando a ver si parecía Gustavo.
Et quand tout le monde est parti à dormir, je suis restée assise sur un fauteuil en face de la porte, en regardant la porte pour voir si Gustavo allait venir.
Iba cada tanto escribía algo que sentía.
Et de temps en temps, j'écrivais quelque chose que je ressentais.
Y mi marido bajaba cada rato y me pedía que me fuera a la cama, que me fuera a la cama, que no iba a aparecer Gustavo, que no lo iban a sacar a la noche, que me acostara, ¿viste? Bueno, yo estaba esperando.
Tous les cinq minutes, mon mari descendait en me disant de venir au lit, que Gustavo n'allait pas sortir ces nuits-là, mais j'ai resté en attendant.
No, el zapato, a ver, le quedará bien y va a venir con la ropa raída.
J'imaginais à ce moment qu'il allait rentrer avec ses vêtements en nylon et je me demandais si les chaussures que j'avais achetées, si les pantalons que j'avais achetés, ils iront bien.
Estaría delgadito, si vendría con la ropa manchada de sangre, si lo iban a dejar ahí en la puerta, malherido, torturado, y bueno, que tener el baño preparado y bueno, toda la ropa
J'avais préparé un bain pour qu'il puisse en profiter, parce que j'imaginais qu'il peut-être il rentrerait sale, blessé, avec les vêtements en sang.
Y bueno, y fue la el primer golpe de realidad de que no iba a ser así, viste, que no los iban a liberar y bueno, que como que era una prueba esa, ¿no? Que era un día tan especial para uno. Y la Navidad para la gente, bueno, es una fecha.
Ça a été une grande épreuve et un coup de réalité. C'était pour la première fois que j'ai réalisé qu'il n'allait pas être libéré.
Aquí hay las madres. Madres de cadáveres en las zanjas. Madres de cuerpos yertos gritando bajo la lluvia o quemados de fuego, pero todos fatalmente deshonrados. Madres del espanto ante cadáveres amenazados. Madres de la agonía dividida entre el odio y el horror. Madres que nos duelen a los que aún tenemos sangre. Aquí hay las madres. Madres de cadáveres no identificados. Madres de la valentía y el ejemplo, aferradas por manos anhelantes a la espera de una respuesta, girando obstinadamente el calvario de la plaza. Madres que han perdido la armonía. Madres de los escalofríos nocturnos, temblando siempre, esperando a sus hijos aún por allá. Madres trágicas por el amor y el dolor, justificadas.
Entonces, yo cuando lo desaparecen, yo empiezo a buscar un papelito.
Quand ils l'ont fait disparaître, moi j'ai voulu savoir où il était. Alors j'ai commencé à chercher des papiers, une lettre. Et je suis tombée sur un agenda avec un tas de poésies, vraiment beaucoup de poésies, et une qui m'était dédiée si jamais il disparaissait.
Est-ce que vous voulez lire le poème ?
Je ?
C'est vrai.
Bon. Si la muerte me sorprende lejos de tu vientre, porque para vos los tres seguimos en él, si me sorprende lejos de tus caricias que tanto me hacen falta, si la muerte me abrazara fuerte como recompensa por haber querido la libertad y tus abrazos entonces solo envuelven recuerdos, llantos y consejos que no quise seguir, quisiera decirte, mamá, que parte de lo que fui lo vas a encontrar en mis compañeros. La cita de control, la última, se la llevaron ellos. Los caídos, nuestros caídos. Mi control, nuestro control, está en el cielo y nos está esperando. Si la muerte me sorprende de esta forma tan amarga pero honesta, si no me da tiempo a un último grito desesperado y sincero, dejaré el aliento, el último aliento, para decirte quiero. Esa es la...
Voilà, elle est magnifique. Elle lit un poème que son fils lui a écrit il y a 20 ans. Et magnifique, elle est magnifique.
C'est magnifique.
Si la mort me surprend loin de ton ventre, parce que pour toi, tes trois fils sont toujours là, si elle me surprend loin de tes caresses dont j'ai tant besoin, si la mort m'embrasse étroitement pour me récompenser d'avoir lutté pour la liberté, et si ton étreinte se referme seulement sur les souvenirs et sur les pleurs et les conseils que je n'ai pas voulu entendre, je veux que tu saches, maman, que tu trouveras chez mes camarades une partie de ce que j'ai été. Si ma mort me surprend ainsi, amère mais honnête, si je n'ai pas le temps de pousser un dernier cri, désespéré et sincère, alors je garderai un souffle, mon dernier souffle pour te dire je t'aime.
disparu, 30 000 disparus d'Argentine à Buenos Aires. On est avec ces folles de la place de Mai, ces mères de Mai qui, depuis 1977, tournent toujours chaque semaine et chaque jour n'en finissent pas d'être dans l'impossibilité d'entrer dans un deuil, qui sont dans l'impossibilité d'oublier. C'est avec elles qu'on passe ces moments. Elles sont extraordinaires parce que ce sont des femmes d'origine tout à fait différentes. Elles n'avaient rien de commun en 1977 lorsque leurs enfants ont été, ou leurs maris ont été assassinés après des tortures par les militaires. Mais elles ont quelque chose de commun, c'est cette peine et c'est cette exigence et cette ferveur extraordinaire, comme si c'était hier. Et c'est comme si c'était hier, comme si le temps n'avait servi à rien. Elles n'ont absolument pas oublié, alors que tout autour d'elles, c'est pas seulement l'Argentine qui oublie, c'est un continent d'oubli, c'est un monde d'oubli, et elles sont toujours là. C'est une femme qui sort une photo magnifique d'une jeune fille, une magnifique photo en noir et blanc d'une très très belle femme. Quand est-ce qu'elle a disparu ?
Elle a disparu après le coup d'État. Le coup d'État, c'était au mois de... le 24 mars, et elle a disparu en septembre. On l'a séquestrée, on l'a obligée à me téléphoner. Ce coup de téléphone, il existe encore, je m'en souviens encore. En fait, on nous appelait parce que tout était une forme de torture. Comme ça, on la torturait, on me torturait.
Alors, c'est toutes ces femmes qui sont avec des photos de leurs enfants autour de nous, des photos d'une classe, des petites filles. Il y a une table de classe avec des petits encriers en faïence. Il y a le tableau noir derrière, et à gauche, avec cette petite robe et ses chaussettes blanches et ses petites baskets, c'est sa fille. Et voilà d'autres photos encore. Et de tous les côtés, nous arrivent des photos des enfants de ces femmes, les enfants en train de rigoler, en train de danser, en train de faire les clowns, des photos en noir et blanc, des années 70...
Disparu.
Voilà, on nous amène des photos. Voilà, encore un enfant. Là, c'est un bébé.
Ça, c'est la dernière photo de sa fille qui était enceinte.
Ma fille, mi hija, l'a rencontrée, je l'ai trouvée 9 ans après.
Moi, j'ai trouvé ma fille 9 ans après sa disparition. En fait, elle était morte 20 jours après. Et il l'avait tuée avec deux garçons qui avaient 17 ans et qui appartenaient au National de Buenos Aires.
Dans l'expédient, il y avait, c'est ça, les photos de comme la police les photographiait. Bueno, estas son las cartas que nos... después de los restos. ¿Eh? Acá es cuando me entregan los restos.
Alors voilà, ça c'est les photos. Ah, ça c'est le moment où on vous a rendu le corps de votre fille. 9 ans après, les restes de votre fille, c'est ça ?
Et
c'est
quand
en la morgue judiciaire, c'est ça.
Et voilà, devant la mer, sur une plage, dans une plage, une photo en couleur d'une jeune fille très souriante, très belle. Et c'est la fille qui a été assassinée maintenant dans une enveloppe. Cette femme sort d'autres photos de sa fille quand elle était un bébé, une photo en noir et blanc.
C'est très difficile. Bon, c'est ça, ce sont les choses.
Bueno, mi hija se llama Alejandra Lapaco.
Ma fille s'appelle Alejandra Lapaco.
Desapareció el 17 de marzo de 1977.
Elle est disparue le 17 mars 1977.
Fueron a mi casa hombres fuertemente armados donde vivíamos mi madre, mi hija y yo.
Des hommes armés se sont ramenés chez moi où j'habitais avec ma mère et ma fille.
Yo estaba, hace tres años que había muerto mi marido.
Ça faisait trois ans que mon mari était mort.
Bueno, estaba el novio de mi hija, Marcelo Buti, cenando, estábamos cenando.
On était en train de prendre le dîner, il y avait aussi le fiancé de ma fille.
Y un sobrino.
Et un cousin.
Y mamá. Bueno, destrozaron mi casa, se llevaron todo el dinero. Y nos llevaron a mi hija, el novio, mi sobrino y a mí.
Bon, ils ont détruit toute la maison, ils ont volé tout l'argent qu'il y avait et ils nous ont enlevé ma fille, à son fiancé, ma cousine et à moi.
Bueno, ahí en ese lugar que nos llevaron, ponían una música sumamente fuerte.
Et l'endroit où ils nous ont emmenés, il y avait une musique très très forte.
Pero a pesar de eso se sentía el grito de los torturados.
Y malgré cela, on écoutait le cri des torturés.
En un momento dado, vi lo, estábamos en como en casillas así.
On était comme dans des petites cases, l'une à côté de l'autre et.
Me levantaba las, porque estábamos con los ojos vendados, me levantaba.
On avait des bandages sur les yeux et je les relevais un petit peu pour voir.
Entonces yo la toqué a mi hija, ella gritó creyendo, se abrazó y me dijo, mamita, mamita, no resisto más la tortura, creo que me voy a morir.
Et j'ai vu ma fille et je l'ai embrassée et elle a crié en croyant qu'on l'attrapait et elle m'a crié, maman, maman, je ne résiste plus, je crois que je vais mourir.
A mí no me pusieron picana, pero sí me pegaron con cadenas. Nos ataron cadenas a los pies, ¿no? Y me pegaron.
A moi ils m'ont pas appliqué l'électricité, mais ils m'ont attaché avec des chaînes sur les pieds et ils m'ont tapé dessus.
Votre fille, elle a été torturée à l'électricité?
Sí, sí. Fue torturada y yo vi así cuando me levantaba y vaya a saber qué otra cosa también hicieron con ella porque uno no sabe, era una chica muy bonita, así que...
Oui, ils l'ont torturée avec l'électricité, mais va-t-on savoir aussi ce qu'ils lui ont fait, parce que de temps en temps, je me levais les bandages et je pouvais voir quelque chose, mais c'était une fille très, très jolie.
Tenía 19 años.
Elle avait 19 ans.
Estudiaba antropología en la Facultad de Filosofía y Letras.
Elle suivait des études d'anthropologie à l'Université de Philosophie.
Bueno, después... En otro momento dado, yo sentí que venía llorando.
Après, je l'ai écouté qu'elle revenait en pleurant.
Entonces yo pedí agua y ella dijo, ay, mi mamá está acá, mi mamá está acá. Bueno. Y yo creía que como es la habían matado. Y me dijeron que la habían matado.
Et j'ai demandé de l'eau pour elle et elle criait, ma mère est ici, ma mère est ici. On m'avait dit qu'on l'avait tué.
Que me habían muerto a mí.
Qu'on m'avait tué à moi.
Torture psychologique, torture morale.
Sí, tortura psicológica, sí. Hay muchos detalles que los voy a pasar por alto y voy a llegar, después nos dejan en libertad a mí y a mi sobrino.
Il y a beaucoup de détails que je vais laisser de côté, mais après on nous laisse en liberté à moi et à mon neveu.
Salió la persona que nos interrogaba ahí y que torturó a mi hija, es el llamado Turco Julián.
La persona que était là y que a torturé a mi fille, c'est celui que on a appelé le Turco Julián.
Cuando lo vi por televisión, no está arrepentido, dijo cómo es que él lo volvería a hacer en la misma televisión. Yo sentí me dio un shock. Soy muy fuerte, me sostengo bien, pero ahí me largué a llorar.
Et quand je l'ai vu à la télé, quand il a parlé à la télé et qu'il a dit que si c'était à refaire, il le referait, moi, même si je suis très forte et très solide, j'ai senti un choc et c'était terrible pour moi.
Il est où aujourd'hui? Il est libre?
¿Quién?
El Turco Julián.
Sí, anda por la calle tranquilamente.
Oui, il est libre, il se promène tranquillement dans la rue.
Mais vous savez où il est?
Solías estar en un bar en la calle Perón, porque creo que es algo de la UON, como uno de esos guardaespaldas de la UON en este momento, pero no sabría exactamente.
Oui, il fréquentait un bar dans la rue Perón parce que c'était un garde du corps d'un syndicat métallurgique ou quelque chose comme ça, mais je ne pourrais pas l'affirmer.
Claro, lo que nosotros nos molestaba era el trato, señor, yo no digo que le hayan dicho asesino, no, pero era un trato demasiado social, ¿no es cierto? Social, ¿eh? Con asesinos así, o sea, lo que han dicho, asesinos confeso. Mucho respeto.
Ce qui nous dégoûtait vraiment, c'est que c'était comment on les considérait à la télé. C'était monsieur d'un côté, monsieur de l'autre côté, et jamais, bon, peut-être assassin ou tortionnaire, mais c'était vraiment dégueulasse de les voir avec cette considération si sociale.
Sostener con ella una charla y le voy a decir, hoy vino un tipo francés y grabamos y nos recordamos a ustedes y vos qué opinás, y seguramente ella se va a reír, va a estar de acuerdo o no, siempre estamos discutiendo con ellos.
Si vous voulez savoir ce que c'est qu'un disparu, c'est maintenant je vais retourner chez moi et je vais m'asseoir et je vais parler avec ma fille et je vais lui dire aujourd'hui il y a un mec, un français qui est venu et on a parlé de toi, on s'est rappelé, et puis elle va rigoler, elle sera d'accord ou elle sera pas d'accord, et on continuera à parler avec elle tout le temps, toute la vie, et c'est ça, un disparu.
Ah. C'est quelqu'un qui n'est pas là et avec qui on parle.
Sur un mur de Buenos Aires, un graffiti qui dit « L'Argentine est le corps du délit ». Un sociologue, Oscar Landi, dit « Il y a, face à ces images, à ces témoignages, un manque à comprendre. Il aurait fallu 20 ans, bientôt 20 ans, pour qu'on commence à se dire qu'il y a comme un manque à comprendre. Qu'il y a, en Argentine, non pas 30 000 disparus, mais des vivants qui vivent avec ces 30 000 disparus.
No está acá y está pegado a vos y está detrás de ella, está en todas partes.
Il n'est pas ici, mais il est collé à toi, il est derrière elle, il est partout.
Es un fantasma, pero no en el sentido de que es un fantasma, pero con que vive, respira, que te está prestando vigor.
C'est un fantôme, pas dans le sens de fantôme, c'est un fantôme qui vit, qui respire, qui est présent et qui te prête de la vigueur, qui te prête de la vie.
Je crois que c'est important que vous avalent ce que je vais dire
avant. Avant que vous ne partiez, il faut que je vous dise quelque chose de très important. Avant, la mémoire était installée dans les gens de mon âge. Maintenant, il y a le mouvement des enfants des disparus qui prennent la relève de la mémoire et qui revendiquent l'identité politique de leurs parents. Ils en sont fiers.
Il disait la verdad.
C'est vrai ce qu'elle dit. Et par exemple, pour nous, pour moi, après tant d'années de souffrance, m'apercevoir que ces enfants ont grandi et qu'ils partagent nos idées, c'est vraiment un bonheur. Et c'est la preuve qu'il peut y avoir du bonheur dans un grand désespoir, dans une grande souffrance.
Este recital se le llamaba festival. Mucha gente preguntaba por qué en este recital.
Plein de gens demandaient pourquoi on appelait ce récital un festival.
Y había muchas como cosa, ¿no? De que
je pense que ça les gênait qu'on puisse fêter un disparu dans la joie.
El fundamento es que
mais justement, la base de notre mouvement, c'est que nous vivons pour la joie.
Con alegría.
Nous luttons avec joie. Nous nous battons pour la joie.
Que nuestros nombres
et nous ne voulons pas que nos noms soient associés jamais à la tristesse.
Eran alegres.
Claro, porque fíjate vos que lo que los
militares... Tu sais, les militaires, ce qu'ils voulaient, c'est qu'on efface leur nom de la surface de la Terre. Et ils n'ont pas réussi, tu vois, parce que les militaires seront morts depuis longtemps que nos enfants vivront encore.
Elle fait un bras d'honneur.
C'est fini. C'est fini.
C'était un reportage avec Zoé Varier, diffusé pour la première fois le 20 décembre 1995. Merci à toutes et à tous. À lire « Résister, c'est vaincre » d'Hébé de Bonafini, cofondatrice du mouvement des maires de la Place de Mai, paru en 2000 aux éditions Gatuzin. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique « Émissions ». Là-bas, si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Éric Mainviel et Dimitri Gronoff. À la réalisation, Coy Nguyen et Raphaël Mouterde. Assistante Agnès Lebot, chef du répondeur Céline Rouzet. Le numéro du répondeur de là-bas si j'y suis et le 01 56 40 37 37.
Vous me reconnaissez? Blanche, violette ou verte? On me mange entière avec une sauce assaisonnée. Je suis l'asperge, toujours là au printemps pour vous régaler. Rapide à cuisiner, une fois cuite, vous pouvez me manger chaude ou froide, accompagnée. Laissez-vous inspirer. Goûteuse et savoureuse, je n'ai que des qualités. Avec l'asperge, c'est le printemps dans nos assiettes.
Avec le soutien de France Agrimaire.
De plus en plus de gagnants de loto, que puis-je pour vous?
Oui, j'appelle pour vous dire, inutile de vous fatiguer, oui. Hein, votre publicité ne marche pas avec moi, ah. J'ai jamais joué, je ne jouerai pas à votre jeu.
Donc vous ne jouerez pas pour le jackpot exceptionnel de ce samedi?
Le
jackpot exceptionnel de ce samedi.
Ah non, mais là, ça n'a rien à voir, parce que c'est un jackpot exceptionnel, oui. C'est pas pareil.
Ah d'accord.
Loto, la chance appartient à tout le monde.
Ça n'a rien à voir.
Ce samedi, jackpot exceptionnel. 3 millions d'euros s'ajoutent au jackpot du jour. Montant total à partager entre les gagnants du premier rang. FDJ, Nicolas Poincaré, Raphaël Duchemin.
Sur France Info, le matin, comme toute la journée, l'info en continu, l'info à vif.
Le soir, au concert des formations de Radio France, vivez les grands moments de la musique en continu.
Nouvelle saison des concerts de Radio France, abonnez-vous. Brochure gratuite au 01 56 40 15 16 ou concert.radiofrance.fr.
Dans quelques minutes, vous allez retrouver Frédéric Lodéon sur France Inter. Passez une très bonne journée. Il est 16h. Le flash, Pierre-François de Courcelles.
Trois explosions secouaient les abords du quartier d'affaires de Bangkok, en Thaïlande. À cet endroit, les opposants, les chemises rouges, faisaient face à des manifestants pro-gouvernementaux. Trois personnes, au moins, ont été blessées. Ces explosions, dont l'origine reste inconnue, interviennent alors que depuis quelques heures, l'armée thaïlandaise menace de recourir à la force pour déloger les partisans de l'opposition qui sont toujours retranchés dans un quartier touristique de la ville. La Belgique, rattrapée par ses vieux démons, le Premier ministre Yves Le Terme a remis la démission de son gouvernement au roi Albert II ce midi. Au cœur de cette nouvelle crise politique, le retrait d'un parti flamand de la coalition au pouvoir depuis 5 mois, faute d'accord sur l'épineux problème linguistique des francophones de la périphérie de Bruxelles. Quentin Dickinson.
Les partis politiques belges, toutes tendances confondues, avaient effectivement jusqu'à aujourd'hui pour trouver une solution définitive à la situation des francophones de la périphérie flamande de Bruxelles, dossier qui était devenu l'abcès de fixation de la crispation interlinguistique du royaume. Le médiateur royal nommé pour l'occasion, l'ancien Premier ministre Jean-Luc Dehaene, avait rendu son rapport avant-hier. Sans prétendre apporter de solution toute faite, ce texte encadrait assez bien les paramètres immuables à l'intérieur desquels la négociation devait se nouer. Il n'en a rien été et le départ, il y a quelques heures, des libéraux flamands de la coalition gouvernementale a sonné le glas d'une équipe dirigée par un Premier ministre, le démocrate chrétien flamand Yves Le Terme, visiblement dépassé par les événements. La crise politique belge est donc de retour, à 2 mois à peine du début de la présidence tournante de l'Union européenne que doit assurer ce pays. Pour nos voisins, écrivait ainsi ce matin l'éditorialiste du quotidien flamand De Standard, nous devenons des caricatures de nous-mêmes. Quentin Dickinson, France Inter, à Bruxelles.
Et pour l'heure, le roi Albert II n'a toujours pas précisé s'il acceptait cette démission. En France, les quotidiens devraient faire leur retour en kiosque dès demain matin. La CGT du Livre a suspendu le mouvement qui perturbait depuis 2 jours la distribution de la presse. 130 postes sur 300 vont être supprimés chez le constructeur d'engins de chantier Bobcat à Pontchâteau, en Loire-Atlantique. Atlantique. La direction met en avant une diminution de moitié de sa production en raison de la crise mondiale. Depuis fin 2008, le site subit des mesures de chômage partiel un jour sur deux. Une commerçante a été condamnée par la justice pour avoir vendu de l'alcool à une mineure. Le tribunal correctionnel de Caen, puisqu'il s'agit désormais d'un délit, a condamné à 1000 euros d'amende avec sursis la gérante d'une supérette de Falaise dans le Calvados. Elle avait vendu une bouteille de vodka à une adolescente de 14 ans. Vendre de l'alcool à un mineur, auparavant une infraction, est devenu un délit depuis la loi Bachelot du 22 juillet 2009. Une nouvelle tentative d'attaque à l'explosif d'un distributeur de billets en région parisienne. Des malfaiteurs ont tenté ce matin de forcer un automate à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis sans succès. Hier, un autre appareil avait été la cible d'une attaque similaire après Saint-Gervais dans le même département.
Nous autres.
Waouh, la radio dans les années 60, c'est, je sais pas quel exemple on est ici. C'est...
Zoé Varier.
Soro Solo, on l'appelait radio quand il était petit.
Quand mon père a débarqué avec la radio à la maison, le quartier venait écouter la radio comme on va au spectacle.
Soro Solo a grandi en Côte d'Ivoire, l'oreille collée au poste. Et c'est comme ça que tout a commencé.
Nous autres, demain à partir de 20h. France Inter, la différence.
Vous écoutez France Inter, il est 16h passé de 4 minutes. Tout de suite, c'est Carrefour de l'Odéon avec Frédéric L'Odéon. Bonjour.
Bonjour Pierre-François. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Mardi dernier, quand l'adorable Patricia Petitbon, chère soprano, cheveux de feu, est entrée dans le studio, elle a entendu le concerto en fa de Gershwin. Elle a dit tout simplement « chouette du Gershwin ». En pensant à elle, parce qu'on va entendre son disque, bien sûr, dans quelques minutes, je vous propose la suite de cette collection proposée par EMI Classics, EMI, George Gershwin, la musique classique américaine en général. Voici l'ouverture de Girl Crazy, fou de fille. We'll be right back. George Gershwin, Girl Crazy, Fou de Fille, ouverture, interprétée par le New Princess Theatre Orchestra, dirigée par John McGlynn. Et il faut citer l'orchestrateur, c'est important, celui qui a donné la couleur de l'ensemble, Robert Russell Bennett. Et je l'ai dit, Patricia Petitbon aime beaucoup la musique américaine, mais elle aime aussi beaucoup le disque qu'elle vient de nous proposer, Rosso, tout simplement, des airs baroques italiens. Donc on va entendre Antonio Vivaldi, l'Olympiade, sur un texte de Metastasio. Et c'est Aminta qui considère que, à tout âge, finalement, nous sommes un peu le jouet de nos passions, et qui dit, qui chante, puisque c'est de l'opéra, donc nous sommes des navires sur des ondes glacées, laissés à l'abandon, nos affections sont des vents impétueux, chaque plaisir est un écueil, toute la vie est une mer, tel un navigateur, la raison veille en nous, mais elle aussi, l'orgueil déchaîné finit par l'emporter. Alors gardons évidemment toute notre raison pour appeler, si vous voulez bien, le numéro de France Inter, il y a 50 disques distribués, proposés par France Inter et par Deutsche Grammophon, au numéro que vous connaissez bien, 01 45 24 7000, 01 45 24